Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique.
Dire au revoir, comment dire au revoir, enfin, chacun a sa manière de le faire.
À la fin de vie, il y a des questions éthiques qui se posent et pour que les professionnels de la santé ne soient pas laissés tout seuls, on essaye de leur donner une sorte de guide pour les aider à faire face à ces questions compliquées.
Des proches qui disent aux patients, mais pour nous c'est important de savoir ce que tu veux parce que nous on veut faire ce que tu veux. Si à un moment c'est à nous de décider, donc c'est très libérateur.
Plus vous en parlez autour de vous, plus les gens savent, mieux vous avez des chances que en fait, le jour où ça arrive, ben, on sache ce que vous vouliez.
Bonjour, c'est Spectra. Penser à sa fin de vie et la prévoir n'est pas un réflexe évident. Il faut souvent pour cela être soi-même atteint d'une maladie ou confronté à la mort pour y penser. Comment anticiper ? Le projet de soins anticipé est le processus dans lequel les patients et patientes, et le cas échéant leurs proches, discutent avec les équipes soignantes des objectifs de soins. Chaque personne doit avoir la possibilité de déterminer comment elle souhaite être traitée et prise en charge médicalement en cas d'incapacité de discernement futur, et qui, dans ses proches, est apte à la représenter. Pour ce nouvel épisode de Spectra consacré au projet de soins anticipés, nous sommes allés à la rencontre de nombreuses professionnelles. Au centre, un groupe de travail national co-dirigé par l'OFSP et l'ASSM et qui a pour objectif d'établir le projet de soins anticipés en Suisse et de le faire entrer dans les mœurs. À l'Office fédéral de la santé publique, c'est la responsable du dossier soins palliatifs qui est la personne de référence pour le projet de soins anticipés, Florina Neff.
Oui, dans son rapport « Améliorer la prise en charge et le traitement des personnes en fin de vie », le Conseil fédéral estime que la fin de vie et la mort doivent impérativement être reconnues comme des composantes de la vie et du système de santé.
Une roadmap à l'usage des professionnels a été publiée en mars. Elle contient 12 points qu'on peut répartir en 4 thèmes principaux. La sensibilisation de la population, les informations de base sur le projet, le rôle des personnels de la santé et du conseil et l'amélioration de la qualité des modèles et des processus.
L'accent est mis ici sur la recommandation numéro 6 du roadmap PROSA. C'est okay. Préparer des questions clés pour le projet de soins anticipés.
Pour mieux appréhender ces questions, nous nous sommes d'abord rendus à Genève, un canton qui a inscrit très tôt dans la loi cantonale les directives anticipées. Direction les hôpitaux universitaires de Genève.
Quand vous travaillez en soins palliatifs, forcément vous travaillez avec des personnes qui ont une maladie grave qui va les emporter, mais c'est important pour nous de le dire, pas forcément dans les jours et les semaines qui viennent, ça peut être des mois, voire 1, 2, 3 ans, voire plus, on ne sait jamais.
La professeure Monica Escher est médecin adjointe, responsable de la consultation hospitalière de soins palliatifs des hôpitaux universitaires de Genève. Elle exerce depuis de nombreuses années les soins palliatifs dans cet hôpital. Comment est-ce qu'on choisit de travailler aux soins palliatifs ? Par choix, par hasard?
Comment on en arrive à travailler dans les soins palliatifs spécialisés? Je pense que c'est un peu les deux. Il y a un petit peu du hasard. Il y a aussi finalement l'intérêt qu'on a. La médecine est un champ très très vaste. Il y a un intérêt pour l'humain qui est très important, un intérêt pour la communication et pour qui est, je pense, très important et qui est au cœur du métier avec une vision assez humaniste. La notion de projet de soins anticipés existe depuis très très longtemps. Les directives anticipées que j'espère beaucoup de personnes connaissent sont inscrites dans la loi, même dans la loi suisse, et ça vient justement dans ce mouvement de dire qu'on a des moyens à disposition pour traiter les patients, mais finalement ce qui est important c'est d'utiliser les moyens qui sont non seulement utiles pour gagner un petit peu de vie, mais aussi qui correspondent aux souhaits des patients. Et donc, la seule façon de le savoir, c'est de discuter avec eux. Et c'est toute l'idée du projet de soins anticipés. Il y a des situations, et en travaillant en soins palliatifs spécialisés, évidemment, j'ai beaucoup de situations, beaucoup de patients chez lesquels c'est important de manière proactive d'envisager l'avenir, malheureusement, les complications qu'il peut y avoir à l'avenir, parce qu'on sait qu'il va y avoir des nouveaux problèmes de santé, des nouvelles complications, et qu'au fond, la meilleure manière d'y faire face au moment où ça arrive, c'est d'en avoir parlé. Donc je dirais là, on est proactif, mais en étant toujours attentif au fait qu'on ne va pas imposer une discussion à une personne qui vous dit « mais pour moi, ce n'est pas le moment ». Donc c'est des amorces, on propose, et si ce n'est pas le moment pour la personne, c'est déjà le premier pas, en fait. Vous avez à quelque part planté la graine qui aurait une réflexion à faire. Donc, au fond, le premier critère de réussite, c'est de pouvoir aborder le sujet de telle manière que la personne vous entende.
Je m'appelle Christine Clavien. Je suis professeure à la faculté de médecine, mais ma formation est de philosophe. Je suis éthicienne. J'enseigne l'éthique aux étudiants de médecine, mais j'ai aussi des projets de recherche. Et un de mes projets de recherche, c'est qui touche autour de l'anticipation des soins. On développe notamment une application pour aider les patients à réfléchir à ces questions de fin de vie, de qu'est-ce qui se passe si je perds ma capacité de discernement, quels soins est-ce que j'aurais envie comme prodigue ou pas. Toutes ces questions sont assez difficiles à aborder, on a de la peine à briser la glace. Et nous, on essaie de trouver des moyens pour aider les gens à rentrer dans ce genre de discussion.
C'est un problème éthique.
C'est un problème éthique parce que ce qui est important, en tout cas en médecine, c'est de soigner les patients au plus près de leurs valeurs et de leurs priorités. Et puis souvent, on est un peu stressé quand on doit prendre en charge des patients. On a un temps limité en tant que médecin et on prend des décisions un peu routinières. Souvent, on fait un peu le maximum dans tous les cas quand on ne sait pas trop. Et puis des fois, ça ne correspond pas à ce que voulait le patient. Donc c'est important de savoir, d'avoir des moyens de savoir comment vraiment il aurait voulu être traité. Et ça, pour ça, il faut une grande proactivité en amont. Et c'est un enjeu éthique parce que cette proactivité, on la trouve peu. À la fois dans la société, puis à la fois dans le monde médical, elle est assez peu présente. Et donc il faut un petit peu pousser pour que justement ces patients s'autonomise. On en a un terme en anglais qui s'appelle empowerment. Il n'y a pas vraiment de traduction française, mais je la trouve assez intéressante, qui se sentent l'autorité de dire, voilà, moi, jusque-là, j'aimerais qu'on me soigne. Là, à ce moment-là, j'aimerais stopper. Ou bien de dire, ben voilà, il y a certains traitements que je ne suis absolument pas disposée à recevoir. Il y a quand même régulièrement des situations dans lesquelles vous avez une famille qui fait une demande pour une prise en charge pour un patient. Et puis l'équipe médicale qui n'est pas tout à fait d'accord avec cette demande, soit parce que la famille, elle demande plus, mais souvent c'est dans le sens inverse, la famille, elle demande moins. Puis l'équipe médicale se dit, oui, mais bon, là, vu l'état du patient, on pourrait quand même encore faire quelque chose. Et puis, dans le doute, en fait, la famille, souvent, elle n'est pas prise en compte. Mais par contre, s'il y a des directives anticipées où le patient a exprimé en amont qu'il était en phase avec ce que la famille demande, bah, dans ce cas-là, les médecins, ils ont l'obligation légale de suivre cette demande-là. Et ça se passe seulement s'il y a des directives anticipées qui ont été écrites. Donc l'enjeu de l'autonomisation du patient, c'est vraiment un enjeu éthique important et qui doit être pris au sérieux.
Dans la société, la fin de vie, elle est traitée comme un événement aigu, alors qu'environ dans 70% des cas, la mort, elle est prévisible et elle pourrait être anticipée. Et le projet de soins anticipés, il vise à favoriser l'autodétermination. Il permet à tout un chacun de formuler ses souhaits quant à la manière et au lieu où il ou elle souhaite être traité.
Valérie Claire dirige depuis 2017 le secrétariat de l'Académie suisse des sciences médicales, l'ASSM à Berne, qui, avec l'EFSP, a été mandaté par le Conseil fédéral pour collaborer sur le projet de soins anticipés. Quelles sont les dernières connaissances en la matière ?
Alors, le rapport du Conseil fédéral se base sur les travaux du PRN 67 sur le thème de la fin de vie. C'est un programme du Fonds national qui a réuni énormément de chercheurs. Et dans les résultats de ce programme, on voit que l'importance des valeurs fondamentales telles que l'autodétermination et la qualité de vie sont mises en avant. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours des choses auxquelles on pense à la fin de vie, parce que parfois il y a la tendance à se dire on veut que la médecine mette en branle tous les moyens possibles pour sauver cette personne, pour prolonger sa vie. Et parfois on oublie la qualité de vie. Et on se rend compte que c'est quelque chose d'important pour les personnes en fin de vie. Peut-être qu'elles vivront 2 semaines de moins, mais elles auront moins de douleurs ou elles auront vraiment une meilleure qualité de vie. Elles pourront peut-être rester chez elles pour leur fin de vie plutôt que de passer ces derniers moments à l'hôpital. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte et qui peut être justement planifié à l'avance. Et il faut aussi se rendre compte que les décisions qu'on prend à un moment, on peut toujours revenir en arrière par la suite. C'est pas quelque chose qu'on écrit une fois pour toutes. On peut, sans autre, changer, par exemple, ces directives anticipées. Et on l'a vu avec le Covid. On a reçu beaucoup de téléphones avec des gens, soit qui voulaient écrire des directives anticipées, soit qui voulaient changer les leurs, parce que le Covid a quand même passablement changé la donne pour ce qui concernait notamment la réanimation. Il y a certaines personnes peut-être qui avaient dit « moi, je ne veux pas être réanimée ». Et avec ce qui s'est passé avec le Covid, tout à coup, elles ont dit « ouais, peut-être quand même que oui, parce que je suis jeune, j'ai des bonnes chances de m'en sortir ». Ou peut-être d'autres personnes qui se sont dit « ouais, vu mon âge, c'est peut-être pas raisonnable de vouloir être réanimée ». Et là, on parle des premiers mois où le Covid est apparu, où on ne savait pas trop comment le soigner, comment traiter les gens, comment aider les gens, combien de personnes allaient être touchées par cette maladie. Là, maintenant, on a plus de recul, donc peut-être que ça nécessiterait de nouveau d'adapter ce document. C'est vrai que les valeurs au cours de la vie évoluent et cette réflexion doit être le reflet de cette évolution.
L'ASSM est une association qui fonctionne en milice et se définit comme médiatrice entre science, médecine et société. Valérie Claire, pourquoi cette association OFSP-ASSM ?
L'ASSM a une expertise dans le domaine de la fin de vie au sens large. On a publié ces 50 dernières années plusieurs directives médico-éthiques qui font foi sur ce thème, comme les directives sur les décisions de réanimation ou la capacité de discernement dans la pratique médicale. Et ces directives, elles servent à aider les médecins, le personnel soignant dans sa pratique quotidienne. Parce qu'à la fin de vie, il y a des questions éthiques qui se posent et pour que les professionnels de la santé ne soient pas laissés tout seuls, on essaye de leur donner une sorte de guide pour les aider à faire face à ces questions compliquées. Et puis peut-être le deuxième argument, c'est que l'ASSM, c'est une organisation nationale et elle est reconnue par beaucoup pour être une actrice neutre, sans intérêt particulier. Et dans le domaine de la santé, ce genre d'acteur est plutôt rare.
Alors comment elle marche cette application ? Elle est déjà faite ou vous êtes dans le concept encore ?
Non, elle est faite. On a gagné plusieurs prix dans des hackathons, on l'a développée. Elle est intégrée en fait, en réalité c'est un module à l'intérieur d'une application, l'application des HUG qui s'appelle Concerto. Concerto, vous voyez, c'est là, Et puis là, on voit cette brique-là qui s'appelle Accordons-nous avec un petit « avec des mains » qui l'entoure pour dire qu'on est vraiment dans le « caring » et dans la prise en charge du patient dans ses valeurs. Et puis à l'intérieur de ce module, alors il y a pas mal de textes, mais vous avez trouvé dans « Je m'informe », vous allez trouver beaucoup de choses, par exemple sur « qu'est-ce que dit la loi » autour des directives anticipées, « qui a droit de faire quoi »,« qu'est-ce que les médecins sont obligés de faire s'il y a des directives anticipées », mais « qu'est-ce que c'est aussi le plan de soins anticipé, c'est différent des directives ». Enfin, il y a pas mal de choses en fait théoriques assez complexes là autour qu'il est important d'expliquer. Puis après, ben voilà, ça c'est la partie j'en parle avec le fameux jeu. Vous pouvez jouer, cliquer sur jouer, puis reprendre une partie. Puis vous voyez, vous avez des cartes, puis vous cliquez sur une carte, puis après vous pouvez avoir des explications et la retourner.
Alors, m'assurer que les tâches quotidiennes suivent leur cours.
Voilà, par exemple, si vous êtes à la maison tout seul et puis qu'il y a certaines choses qui doivent être faites, arroser les plantes ou je ne sais pas, en fait, si tout à coup vous êtes à l'hôpital, qui c'est qui va s'occuper de ça ? Donc, c'est des petites choses comme ça. Ça peut être intéressant pour certains, puis pas du tout pour d'autres. Si ce n'est pas intéressant, vous appuyez là, puis ça veut dire que ce n'est pas intéressant. Donc, maintenant, il y en a d'autres qui sont, par exemple, sentiments et relations. Tac. Voilà, je recevoir des gestes affectueux ou attentionnés. Et là, il y a des personnes qui sont plus tactiles, qui ont besoin d'avoir des câlins, puis d'autres qui aiment plus la distance. Et on peut l'exprimer. Et puis, les soignants dans une institution de soins, si elles savent ça de vous, elles sauront mieux comment faire et puis vous vous sentirez mieux, même si vous n'arriverez pas à l'exprimer, vous serez mieux prise en charge parce que les soignants, ils savent qu'avec vous, ils ont le droit de vous toucher ou bien ils n'ont pas le droit de vous toucher. Ça serait cette carte-là. Il y a des gens qui ont besoin de garder une sexualité, ils ont aussi une carte pour ça. Il y a des gens qui veulent régler un conflit, qui ont un conflit latent dans une famille depuis longtemps. Puis, peut-être de voir une carte comme ça, ça peut leur les motiver à tout à coup se dire « tiens, je vais prendre mon téléphone, je vais rappeler cette personne de ma famille avec laquelle je suis brouillée depuis des années et on va essayer de régler ces choses-là. » Dire au revoir, comment dire au revoir, enfin, chacun a sa manière de le faire. Après, il y a des cartes qui sont vraiment plus liées à la maladie, aux soins. Il y a certaines personnes qui veulent absolument se débarrasser de leur maladie, par exemple. Alors, ils vont choisir cette carte, tout faire pour me débarrasser de ma maladie. Mais après, du coup, dans la phase suivante du jeu, on va leur dire, OK, vous voulez tout faire, mais du coup, comment ? En faisant quoi ? Et ça va nous passer à une autre phase du jeu, où la phase explicative, où on explique. Puis après, la dernière phase du jeu, c'est une fois qu'on a expliqué, on dit, bon, ben, quelles sont les actions à mettre en place qui vont dans ce sens-là ? L'objectif, c'est d'augmenter, et puis surtout à travers ces enseignements, ces outils digitaux, etc., c'est de changer toute la culture hospitalière ou médicale dans une direction de plus grande communication autour de qu'est-ce qu'on fait le jour où vous êtes incapable de discernement, qu'est-ce qu'on fait avec vous, qu'est-ce que vous auriez envie qu'on fasse avec vous. Et ça, c'est un changement d'état d'esprit qui doit être imprimé, parce que du coup, on met la voix du patient en avant. C'est pas le médecin qui sait comment le patient doit être soigné, c'est le patient qui dit « moi j'aimerais ceci, cela » et le médecin regarde « ah ben oui, vu ces priorités-là, qu'est-ce que je peux faire comme prise en charge médicale qui peut aller au plus proche de cette priorité-là ?»
Il y a trois partenaires, il y a le patient, il y a les proches et puis il y a les soignants, les médecins. Et en fait, l'idée est de mettre ensemble les visions de chacun pour le bien du patient. Et les familles, bien, vous avez... C'est la vie, vous avez toutes sortes de familles. Vous avez les familles où il y a une parole très très libre et en fait, ils vous disent eux-mêmes, que ce soit les patients ou les familles, on en a parlé, on en parle beaucoup entre nous. Il y a des situations où en fait les familles sont contentes qu'on aborde le sujet parce qu'elles vous disent, bah, nous on le sait, on y a réfléchi depuis longtemps, mais on n'ose pas en parler à notre proche malade et vice-versa. Et puis, bien sûr, il y a les situations où les familles peuvent vous dire « Non, mais c'est trop dur ce que vous nous dites là. » Mais de nouveau, c'est de l'entendre et de dire ben, « Je comprends bien que ce soit difficile. Maintenant, pour nous, c'est aussi important de vous en parler, que vous soyez au moins informés, parce qu'à un moment ou un autre, il y aura des décisions à prendre et de nouveau, mieux vaut anticiper. » Alors, il y a une image qui me vient, qui vient pas de moi, mais qui c'était un article qui a été publié dans un très bon journal de médecine par rapport à comment, en fait, présenter les soins palliatifs, et on est aussi dans l'anticipation. Et l'image, c'est de dire qu'il vaut mieux prendre un parapluie avec soi. S'il pleut pas, bah, c'est pas bien grave, et s'il pleut, bah, au moins on a ce qu'il faut avec soi, et que c'est pas parce qu'on prend le parapluie qu'il va pleuvoir. Donc c'est un petit peu ça, c'est que c'est pas parce qu'on parle du fait qu'il peut y avoir un problème de santé que ça va forcément arriver, ou en tout cas pas maintenant, et qu'on le fait vraiment dans l'idée de prendre en charge les patients le mieux possible.
Mais comment parler de la pluie quand il fait très beau ?
Alors, quand il fait très beau, en général, les gens sont pas à l'hôpital. Ça, c'est une première chose. Donc, c'est commencer par dire, il y a une averse. Là, l'averse a passé, on est content. Mais comme on connaît votre situation de santé, on peut imaginer qu'il y aura une autre averse. L'objectif, en fait, est extrêmement important. Donc, c'est de ne pas craindre d'aborder des sujets difficiles, parce qu'on le fait toujours dans l'idée d'être au plus près des besoins du patient, que de nouveau, ce n'est pas parce qu'on en parle que ça va arriver, et que finalement... Plus on prend l'habitude d'en discuter et plus on voit aussi que les gens apprécient et plus ça devient facile. Donc c'est tout le bénéfice de ces discussions, pas seulement pour le patient, de nouveau aussi pour les proches. C'est très soulageant pour les proches d'avoir pu discuter avec le patient, d'avoir pu mettre clairement en place leurs souhaits. Il y a vraiment des proches qui disent aux patients « mais pour nous c'est important de savoir ce que tu veux parce que nous on veut faire ce que tu veux, si à un moment c'est à nous de décider ». Donc c'est très libérateur.
On aimerait que ce projet atteigne les deux publics, aussi bien la population, les citoyens, les citoyennes, que les professionnels de la santé, parce que c'est ensemble que ces décisions concernant la fin de vie doivent se prendre.
La feuille de route du PROSA, le projet de soins anticipés, est donc sortie en mars et elle a pour but de donner un cadre, la direction et des recommandations d'après pas moins de 170 prises de position préalables de différents acteurs du secteur. On y aborde des domaines qui par la suite seront approfondis dans des sous-groupes de travail. Valérie Claire.
Les thèmes sur lesquels les sous-groupes vont travailler ne sont pas encore totalement définis, mais il y aura probablement un sous-groupe qui va s'occuper des populations vulnérables. Et on ne s'adresse pas à ces populations comme on s'adresse à la population en général. Il y a des besoins spécifiques, il y a des organisations qui entourent ces populations vulnérables, donc il faudra aussi travailler avec elles, par exemple. La question des enfants, c'est aussi un sujet délicat, parce que la question du consentement se pose, et les enfants, ils ne réagissent pas la même chose enfin, on ne peut pas évaluer leur consentement de la même manière s'ils ont 3 ans ou 14 ans. Donc là, il faudra aussi cibler ce qu'on veut pour eux et adapter la communication en conséquence.
D'une certaine manière, on est tous concernés parce qu'on peut avoir un accident de ski demain ou de vélo et puis être dans une situation où voilà, ouais. Il y a des décisions importantes au niveau médical qui doivent être prises. Est-ce qu'on sauve, mais au prix d'une tétraplégie ou pas, etc. Donc ça, ça concerne aussi les jeunes. Il faut qu'ils en prennent conscience. Donc c'est toujours intéressant, même pour les jeunes, d'écrire des directives anticipées ou de se poser ce genre de questions. Ça, c'est sûr. Hein. Sauf que voilà, c'est plus difficile à les motiver.
Et les sensibiliser aussi.
Et à les sensibiliser. Mais nous, par exemple, dans l'application Accordons-nous, on a un modèle de directive anticipée où on peut filtrer des questions en fonction de notre situation de vie. Et puis, on a un filtre pour les jeunes. Donc, ceux-là, les jeunes, ils ne vont pas avoir des questions du genre comment est-ce que vous voulez avoir une chambre d'hôpital ou bien de DMS avec plus ou moins de bruit, etc. Enfin, ce genre de questions-là ne se posent pas tellement pour des jeunes, donc on ne va pas mettre ça dans les filtres.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que justement les jeunes soient plus sensibilisés ?
Bon, déjà, je pense qu'il faut les informer. Enfin, je pense que des campagnes d'information sont importantes. Je pense pour les jeunes, surtout, c'est la question du don d'organes qui est utile pour la société. Et puis, il faut aussi surtout sensibiliser ceux qui font des sports à risque, je pense, cela, et c'est plus important. Et là, peut-être qu'à travers leurs associations, leurs sociétés de sport, ça peut être un des moyens. Mais les jeunes, c'est assez difficile de les aborder. Souvent, la manière la plus naturelle d'aborder les questions, c'est quand vous avez des patients qui viennent de manière répétée à l'hôpital, qui ont déjà eu plusieurs gros soucis de santé. Et puis, à ce moment-là, ça semble pertinent d'aborder la question et ça semble plus naturel. Et aussi, ça se justifie mieux au niveau de la tarification de, voilà, pour les médecins, tout simplement. Les temps de discussion sont tarifés et donc ça se justifie plus pour des patients qui sont malades, qu'on voit souvent, de régulièrement aborder cette question dans le cadre d'une consultation médicale.
Allez, encore une petite question curieuse. Est-ce que la problématique du projet de soins anticipés varie selon les régions de Suisse, Christine Clavien?
Oui, il y a des grandes différences. Par exemple, les Suisses-Allemands ont beaucoup plus de directives anticipées que les Romands.
C'est-à-dire qu'ils font mieux leurs devoirs?
Je ne sais pas.
En tout cas, ils remplissent plus leurs devoirs. C'est ça que je veux dire, il y a plus de gens qui la font.
En tout cas, ils ressentent plus le besoin de se prémunir ou bien de décider pour comment on va les traiter, ça c'est sûr. Après, je sais aussi qu'en partie, c'est dû à des cultures au sein du corps professionnel médical. Avec, par exemple, au Tessin, là, j'ai entendu récemment une conférence à ce sujet. C'est une thématique qui est très rarement abordée apparemment par les professionnels de la santé au Tessin. Et donc forcément, en retour, il y aura très peu de directives anticipées, peu d'explications dans les dossiers médicaux sur comment est-ce qu'il faudrait faire avec ces patients-là. Ce qui est dommage. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une question de culture, c'est une question aussi de formation. Si on n'a jamais été formé à la question, c'est normal qu'on ne l'aborde pas. Et il y a un manque clair de formation en ce moment, je pense, dans certaines régions de la Suisse.
Spectra, c'est terminé. Un chaleureux merci à toutes les intervenantes de ce podcast. Florina Neff de l'Office fédéral de la santé publique, Valérie Claire de l'Académie suisse des sciences médicales ASSM à Berne, Monica Escher des hôpitaux universitaires de Genève et Christine Clavien de la faculté de médecine de Genève. Vous trouverez toutes les informations et la roadmap par exemple sur la plateforme de l'OFSP plateforme-soinspalliatifs.ch. Et si vous voulez vous informer sur les directives anticipées et peut-être déjà les remplir en vous amusant, même si vous n'êtes pas genevois, il y a Concerto.
Concerto, même si c'est une application à sujet, il y a n'importe qui, même en France, en fait, vous pouvez télécharger Concerto. Et vous aurez accès à l'ensemble de l'application, y compris le jeu. Mais les directives anticipées, vous ne pourrez pas les remplir sur l'app. Vous pourrez seulement télécharger le document vierge et puis le remplir chez vous. Mais vous ne pourrez pas remplir les directives dans le module.
Bon, c'est déjà pas mal. Hein.
Donc oui, c'est déjà pas mal, ouais. Ouais.
Et nous, on se retrouve au prochain épisode. À bientôt et surtout, prenez soin de vous.
Spectra, le podcast sur la prévention et la promotion de la santé. Un podcast de l'Office fédéral de la santé publique.